Pour le troisième volet de notre série consacrée au marché tchèque, nous vous proposons de rencontrer une personne qui connaît le milieu des affaires pragois comme sa poche, Pascal Felmy. Arrivé en 1994 à Prague en qualité d'expert comptable, il est chargé de développer Mazars, actuellement numéro 5 des cabinets d'audit en Europe. 10 années et une carrière en fusion-acquisition plus tard, il rejoint Anderson Willinger en tant qu'associé, un cabinet spécialisé dans le recrutement de cadres supérieurs en Europe centrale et orientale, dont le siège est à Prague. À tout juste 50 ans, Pascal Felmy a un long parcours derrière lui et un tas d'histoires à raconter, des histoires qu'il a racontées au micro d'Agnès Zatolski.
Panorama.
Panorama.
Mais commençons par le commencement. Commençons par parler du cabinet Mazars, autrefois appelé Mazars Gerhard, du nom de Gerhard Viala, l'un de ses fondateurs.
Ce qui m'a vraiment plu chez Gerhard Viala, c'était déjà la personne qui me parlait, et aussi son projet, c'était on se retrouvait à deux jeunes de moins de 30 ans à faire à peu près ce qu'on voulait. Et c'est ce qui s'est passé pendant 3 ans, c'était que tant qu'on coûtait pas beaucoup d'argent au siège, ils nous laissaient tranquilles.
Ce cabinet, en fait, avait été lancé combien de temps avant votre arrivée ?
Au moins 2-3 ans avant.
Et dans quel état il était à ce moment-là ?
Beaucoup de pertes, pas mal de Français qui étaient là en intérim. Et l'idée du directeur à l'époque, c'était d'embaucher des locaux. Et en fait, en 3 ans, on est passé de 12-15 à 45, je crois. Et après, Mazars a continué de grandir. Il y avait plein d'opportunités. On faisait des propositions de mission, une, deux, trois par jour. C'est extraordinaire pour des gars d'une trentaine d'années de développer comme ça un cabinet. Vous voyez, avec les lunettes de soleil, les cheveux dans le vent. Et on était jeunes, on était fous. En 3 ans, on a, à force de brûler la mèche par les deux bouts, les deux sont partis à peu près au même moment.
Et par rapport aux lois, tout ce qui est administratif, j'aimerais savoir... Dans quel environnement, en fait, vous êtes arrivé ?
C'est une bonne question et c'est facile de lui répondre puisque l'environnement comptable a été mis en place par l'Ordre des experts comptables français. Donc c'était le même plan comptable à une petite exception près. Ensuite, les Tchèques l'ont un peu passé à la moulinette. C'était aussi le début. Donc on n'avait pas 15 volumes comme en France. On avait un petit 100-200 pages. Ce qui était plus intéressant, c'était la manière dont les locaux comprenaient la législation et notamment le fait qu'au début, on avait surtout des clients sur Prague. Donc on les conseillait en fonction de ce qu'on voyait à Prague et vous aviez les financiers dans d'autres régions où ils voyaient ça autrement et donc notre client se faisait aligner et nous on se faisait aligner par notre client. Ce qui était plus intéressant je pense c'était de faire arriver à comprendre aux gens avec qui on travaillait comment travailler. Et une des premières expressions que j'ai apprises en République tchèque c'est « tonen i možná », c'est pas possible. Et au début quand on comprend pas on se dit « bon bah t'as raison ». Une fois qu'on commence un peu à avoir lu les lois on dit « tiens mais montrez-moi où vous voyez votre truc ». Et finalement on s'aperçoit qu'en fait c'était simplement une grosse résistance au changement.
Quels étaient les blocages ou alors les visions radicalement différentes entre leur façon de faire et la vôtre ?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on avait, nous, des choses venant de l'Ouest et ayant déjà quelques années d'expérience, il y avait beaucoup de choses qu'on faisait automatiquement. Et ce qui était difficile au début, mais en fait, qui était intéressant, c'était que les gens nous demandaient « Mais pourquoi vous faites ça comme ça ?» Et donc, pour arriver à leur expliquer, on était obligés, nous, de refaire le chemin inverse.
Vous vous souvenez d'un exemple ?
Non, vraiment des exemples, ça fait un moment. Je me rappelle d'un client, notamment, là, c'était... C'est de la science-fiction. On avait un client qui avait une joint venture avec une boîte slovaque dans le retraitement des déchets. Ils avaient un gros problème entre le français et le slovaque. Et moi, j'allais faire la compta de temps en temps pour faire le reporting. Et nous, on était dehors avec la police qui tirait à balles réelles sur le bâtiment. Le partenaire slovaque tirait sur les Français et les policiers qui étaient dehors. Et moi, il me disait, Pascal, on passe par derrière. Tu sais où est l'ordinateur avec toute la compta et tu vas rentrer, tu vas aller récupérer la compta. Je suis pas fou, donc je l'ai pas fait.
C'était du western.
À Prague, ce qui m'aidait à tenir, c'était d'aller sur Smetanovo Nabrzeží. On a la vue sur le pont Charles et le château. Et finalement, après avoir vu ça, je dis allez, je reste. On essaye encore une semaine et ça fait 22 ans que je suis là. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont venues parce que Prague, c'est quand même une ville qui est magnifique. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait que 10 millions d'habitants. Donc, et après, on a eu une espèce de phase de réorganisation où on s'est dit, tiens, c'est pas très grand, on va pas forcément envoyer des gens qui sont top. Dans les choses qui m'ont marqué, il y a eu l'histoire d'Auchan, qui était le premier ici, qui était avant Tesco, qui était avant Lidl, avant Albert, avant Deleuze, et qui avait une occasion extraordinaire à Plouhonice. Je pense que la preuve que les muliers étaient contents de son travail, ils l'ont promu après directeur de magasin à Gdansk. Il devait avoir Tintin au Congo comme livre de chevet. Il s'est comporté avec les politiques de manière très arrogante. Et ils ont perdu cette opportunité qu'ils auraient eue à l'époque, qui aurait été fantastique.
Vous pensez que ça, c'est un cas isolé ou il y a d'autres cas similaires de relations qui n'ont pas forcément réussi entre la France et la République tchèque?
Il y en a, je pense qu'il y en a pas mal. Il n'y a pas que des Français. Quand il y a eu les négociations sur l'extension de Temelin, je travaillais sur un projet pour recruter un project manager. Donc on a vu des choses qui étaient quand même intéressantes, notamment le fait que les Russes ont invité les présidents tchèques ou le premier ministre tchèque en Russie pour rencontrer, je crois que c'était Medvedev. Les Américains ont envoyé Joe Biden, le vice-président, rencontrer le gouvernement ici, et les Français ont envoyé quelqu'un qui n'avait pas 30 ans, et les gens tchèques ont très mal réagi.
Dans les années 90, pour les entreprises françaises qui voulaient s'installer en République tchèque, qu'est-ce qui a fait qu'elles ont réussi?
Vous ne voulez pas parler de Carrefour alors? Non, puisqu'ils sont partis la queue entre les jambes. Donc,
qu'est-ce qui s'est passé?
Carrefour n'a pas compris le fait que ce qui marchait, les Tchèques, sont quand même un peu proches des Allemands au niveau retail. Mais la super galerie commerciale autour du supermarché, c'est pas le principal pour les Tchèques. Les Tchèques, c'est le prix. Si vous allez dans un magasin tchèque, il y a quand même énormément d'endroits où c'est marqué Sleva, Discount, Liquidace. Ils aiment bien ça. On a voulu imposer un modèle français qui ne correspondait pas forcément aux attentes tchèques. Après, dans ceux qui sont bien débrouillés, quand on voit un peu les secteurs dans lesquels on trouve souvent les Français, je pense qu'il y a tout ce qui est secteur financier. Donc là, c'est quand même les Français, ils ont racheté des grosses sociétés, Commerzbanka. Et après, il y a quand même beaucoup... C'est quand même plus du B2B, du B2C.
D'accord.
En industriel, on a quand même, quand on voit tout ce qui est automobile, type TPCA à Colline, 95% des voitures sont vendues à l'étranger. Je pense qu'il y a deux cas. On a le cas de la société qui a bien recruté sur place et qui a bien formé les gens et qui ont trouvé des gens qui sont très bien. Je pense notamment à une société avec qui j'ai travaillé beaucoup et avec qui j'ai beaucoup appris, qui s'appelle Sodexo Pass, qui ont des gens qui sont vraiment bien depuis des années, qui ont des Tchèques comme directeur. Schneider à Prague a aussi un Tchèque qui est très bien. On envoie leur d'envoyer des gens qui sont bons, qui comprennent les spécificités locales, qui arrivent à communiquer avec les locaux. Par exemple, on a une boîte qui s'appelle Laboratoire Servier et qui sont maintenant numéro un sur le marché tchèque des ce qu'on appelle les produits, les médicaments originaux. C'est un Français qui dirige, ils ont une équipe qui est là à long terme et ça marche bien.
Au tout début de l'entretien, vous m'avez dit le livre des experts comptables, c'était épais comme 100 pages. On dit souvent aussi que la République tchèque, à ce moment-là, était un peu une mine à ciel ouvert, il y avait tout à faire. Mm-hmm. Est-ce que cette corrélation entre quasi-absence au niveau législatif et tout est possible et on peut monter un grand business, est-ce que cette corrélation est étroite ou vous trouvez qu'elle est trop rapide?
À mon avis, non, je ne pense pas. Je pense que ceux qui ont réussi dans les années 90, c'est les gens qui ont eu le bon flair, qui ont trouvé le bon secteur et qui l'ont bien fait. À mon avis, qui ont su aussi parfois s'adapter. Comment je dirais, parfois la frontière, parfois il faut savoir un petit peu longer la frontière, on dira.
Entre,
faut savoir faire comme les locaux. Faut savoir utiliser la législation et les habitudes à son avantage. Si vous voulez faire du business en République tchèque, vous le faites. Quelque part, il faut quand même le saupoudrer d'un peu de tchèque. Dans les années 90, c'est chez n'importe qui faisait. Vous proposiez des produits, on vous les achetait parce qu'il y avait des produits qui étaient disponibles. Donc après, les gens qui sont dans les années 90, le gars qui parlait un peu anglais ou allemand et qui était plutôt intelligent, on l'embauchait, on le payait bien et la personne avait la possibilité de se développer. Moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont des super postes maintenant.
Vous parlez des Tchèques qui se débrouillaient.
Là, je parle des Tchèques qui se débrouillaient, qui parlaient anglais, qui étaient prêts à travailler. Et après, surtout, je dirais, ça a continué un peu comme ça jusqu'à 2005, 2008. Et là, après la crise, là, ça a été Ah, si vous voulez, moi je prends l'exemple toujours un peu du gâteau. À l'époque, il y avait un gros gâteau et il y avait assez pour tout le monde, même de trop pour tout le monde, pour avoir une indigestion pour tout le monde. Maintenant, le gâteau, il est 10 fois, 20 fois plus petit. Il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc il faut se battre. Mais quand vous avez l'habitude pendant 15 ans que tout vous tombe dans la bouche, le directeur, la tradition en République tchèque, c'était le directeur commercial. Il avait les pieds sur la table. Il lisait Blesk le matin en buvant son café. Et à 11h, il appelait ses commerciants en disant « Tak co vole, jak to vypada ?»« Alors, vous avez vendu, ça marche ? Comment ça, espèce de feignant ?» Nous, dans les dernières années, dans le recrutement, on a eu des gens qui ont été obligés de se séparer de personnes qu'ils avaient, qui bossaient avec eux depuis 15 ans, parce qu'ils disaient « Il faut se battre, il faut trouver des solutions. »
Donc ça demande d'avoir une autre personnalité.
Ça demande d'avoir une autre personnalité.